La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu tinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole.
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
nuits. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que nous propose le professeur John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, et que nous écoutons cette semaine, ménage des intrigues à propos d'un livre de Plutarque intitulé « Questions romaines ». Ce livre est traduit en français et on le trouve en livre de poche sous le titre « Grecs et Romains en parallèle ». Nous étions restés hier à la construction du livre. En effet, le texte de Plutarque est composé de questions auxquelles il répond par d'autres questions, avec des développements passionnants, très érudits et diversifiés, au point d'en être souvent contradictoires. Mais ce livre semble avoir été écrit sans aucune organisation. Dans le cours que nous avons entendu hier, John Shedd montrait qu'il y a bien des regroupements thématiques et des liens évidents entre des séries de questions, mais impossible de trouver un quelconque fil conducteur qui permettrait de comprendre la cohérence des enchaînements. Ce texte est pourtant visiblement très travaillé, très raffiné, très organisé. Mais qu'est-ce donc alors qui en fait l'unité ? C'est évidemment parce qu'il détient la clé de ce mystère que John Shedd nous propose dans ce cours de suivre la démarche de Plutarque pas à pas.
Si nous lisons ce livre en lecture continue, en nous plaçant devant un plan de Rome, nous nous rendons compte que Plutarque promène son lecteur d'un lieu à l'autre, dans l'espace limité des grands centres civiques anciens de Rome. La trame organisatrice des questions romaines est la topographie romaine. C'est l'hypothèse que j'essaierai de vous démontrer devant vous pendant le cours de cette année. Commençons donc maintenant notre pérégrination. Et j'essaierai à chaque fois de vous donner aussi quelques éléments pour justement comprendre comme un Romain ce qui était implicite dans toutes ces histoires, dans toutes ces questions. Examinons les premières questions qui ne donne évidemment aucun indice topographique explicite, au moins au début, et je ne vais pas vous le dire tout de suite, je veux vous amener à le découvrir par vous-même. Les deux premières questions concernent le mariage. Nous avons déjà lu la fois dernière la première question, je la rappelle simplement. Pourquoi fait-on toucher du feu et de l'eau à la nouvelle mariée? Vous vous rappelez. La deuxième question continue sur le même thème. Je lis, pourquoi n'allume-t-on jamais, au cours des rites du mariage, ni plus ni moins de 5 torches appelées kériones? À première vue, ces deux premières questions ne contiennent aucune référence topographique. Mais à la fin de la deuxième question, Plutarque évoque Artémis, Diane, je l'ai déjà dit. Je cite la dernière question. Ou est-ce parce qu'il pensait que le couple nuptial a besoin de 5 dieux, 5 torches, 5 dieux, Zeus Teleios, Hera Teleia, Aphrodite et Peito, mais avant tout Artémis, que les femmes invoquent pendant les douleurs de l'accouchement? Or, la troisième question porte sur Artémis, sur Diane. Je lis la troisième question. Pourquoi, parmi les nombreux temples d'Artémis à Rome, est-ce uniquement dans celui qui est situé dans le vicus appelé Patricius que les hommes n'entrent pas? Est-ce en raison du mythe que l'on raconte? En effet, un homme tenta un jour de faire violence dans ce sanctuaire à une femme qui vénérait la déesse. Il fut déchiré par les chiens, et depuis lors, c'est par crainte superstitieuse que les hommes n'y pénètrent plus. Ici, une question se pose immédiatement. Le texte, vous l'avez entendu, donne une indication topographique explicite. Le renvoie au temple d'Artémis de Diane dans le vicus Patricius, où se trouve ce temple interdit aux hommes. Ce quartier appartient à l'Esquilin. C'est en allant vers Sainte-Marie-Majeure. Pour l'instant, je ne précise pas la signification de cette indication topographique. Je la relève. Mais lisons d'abord la question suivante pour être sûr de tout comprendre. 4, donc. Pourquoi cloue-t-on des cornes de cerf à tous les autres temples d'Artémis, ce qui est conforme à l'attente, mais des cornes de génisse à celui de l'Aventin? Est-ce parce que elle rappelle la vieille histoire? En effet, on raconte que chez les Sabins, une génisse d'aspect remarquable et différente de toutes les autres par sa taille, naquit dans le troupeau d'un certain Antrocuratius, sic, normalement c'est Curiatius, Curatius. Et comme un devin lui annonça que la cité de celui qui aurait sacrifié cette génisse à Artémis sur l'Aventin était destinée à devenir la plus grande et la maîtresse de toute l'Italie. Antro alla à Rome pour sacrifier la génisse. Or, un de ses domestiques rapporta en cachette la prédiction au roi Servius, Servius Tullius, et celui-ci en informa le prêtre Cornelius, un prêtre appelé Cornelius. Ce dernier prescrivit à Antro, qui était venu avec sa vache, de se baigner dans le Tibre avant le sacrifice. C'était l'usage pour ceux qui voulaient sacrifier sous d'heureux auspices. Et pendant qu'Antro fut parti pour se baigner, Servius prit les devants, il sacrifia la génisse à la déesse et cloua les cornes au sanctuaire. Cette histoire a été racontée par Juba et par Varron à cette nuance près que Varron ne donne pas le nom d'Antro, mais dit que ce n'est pas le prêtre Cornelius qui trompa le Sabin, mais l'Aeditus, le sacristain. Fin donc de la question. Cette question permet de comprendre la précédente. À la question 3, il est bien entendu question des femmes, de l'opposition entre hommes et femmes, interdiction aux hommes d'aller dans ce temple, puis l'explication. Dans ce contexte, l'auteur évoque tous les temples d'Artémis, c'est-à-dire de Diane, pour les distinguer d'un seul, de celui qui se trouve dans le Vicus Patricius. Puis, il continue en racontant le mythe d'origine du temple de la Diane Aventine, dans la question 4, nommé explicitement. Je poserai pour l'instant comme hypothèse que c'est le grand temple de Diane, celui de l'Aventin, qui est ici en cause, qui est l'objectif vers lequel va le texte. Le renvoi à celui du Vicus Patricius est seulement dû à la digression sur l'opposition homme-femme dans le cadre du thème commencé au début de l'ouvrage, et il sert de transition vers tous les temples de Diane, puis à celui de l'Aventin. Nous verrons ensuite si cette présomption est justifiée ou non. Cette constatation faite, on peut formuler une hypothèse sur le départ topographique des questions romaines. Si dans la question 4, nous nous trouvons bien sur l'Aventin, les questions sur le mariage peuvent se placer au Grand Cirque, car c'est là que se situe l'origine des épouses romaines, ou du moins des traditions, l'origine des traditions mythologiques qui les concernent. J'ai mentionné la semaine dernière les questions 85 et suivantes, et que nous retrouverons plus tard. Je les mentionne parce qu'elles me paraissent confirmer l'hypothèse de départ que je propose. Dans ces questions, en effet, le lien épouse-Sabine est explicite, et appelle en outre une digression sur le budget des jeux. Hein, rappelez-vous, pourquoi dans 85, pourquoi dans l'ancien temps, ne permettaient-ils pas à leurs épouses de moudre et de cuire la viande? Réponse, entre autres raisons, est-ce en souvenir du traité conclu avec les Sabins? Donc les Sabins interviennent après le rapt de leur fille. Là, on est au Grand Cirque pour cette histoire. 86, pourquoi au mois de mai ne se marie-t-il pas? Donc c'est la suite des questions sur le mariage. 87, pourquoi sépare-t-il les cheveux des jeunes mariés avec la pointe d'une javeline, d'une courrice? Toujours le mariage. Et puis, bizarrement, 88, pourquoi appelle-t-il Loucar, l'impôt pour les jeux de cirque. Cet enchaînement permet de constater qu'un Romain éduqué, en tout cas Plutarque et ses lecteurs présumés, faisait le lien entre tous ces éléments et associait les épouses, le rapt des Sabines, le mariage, tout ce qui touchait le mariage, au grand cirque, où avait eu le rapt des premières épouses des Romains, et donc aux Jeux. D'où le passage au budget des Jeux, n'est-ce pas? Sinon, on ne comprend pas du tout la transition. Mais une fois qu'on se met en tête cette connexion topographique, la transition entre 87 et 88 est tout à fait attendue. Je propose donc de considérer, en attendant d'autres confirmations bien sûr, que le point de départ des questions romaines doit être cherché au Grand Cirque, lieu du rapt des Sabines et d'un possible discours sur les femmes, sur les matrones, c'est-à-dire les femmes mariées, et sur le mariage. De là, en raison du thème et des relations de Diana Lucina, la déesse qui aide dans les accouchements avec les matrones et l'enfantement, on continue en évoquant le temple de Diane qui surplombe la vallée du cirque et qu'on voit en levant les yeux. Une autre question à laquelle je reviendrai en détail à la fin de notre périple concerne le sens à donner à ce lien topographique. Est-ce que l'auteur et le lecteur sont censés se promener d'un point à l'autre, ou bien surplombent-ils le quartier en question en fixant successivement les monuments cités? Ou enfin, effectue-t-il une promenade limitée avec quelques arrêts en des points privilégiés d'où ils peuvent apercevoir alentour les temples ou monuments évoqués? Pour l'instant, je choisis la solution la plus simple, c'est-à-dire quelques déplacements vers des points d'observation privilégiés. Nous reviendrons au problème au cours des deux dernières leçons. Je dirais donc que les lecteurs se trouvent au départ au Forum Boarium, à l'angle du Grand Cirque, et regardent d'abord vers ce grand monument bien visible de tous les points du Forum Boarium, avant de lever les yeux vers la pente nord-ouest de l'Aventin, dominée par la masse du temple de Diane, où j'ai mis 3 et 4. Ce point de départ, le Grand Cirque et la vue du temple de Diane, déterminent le thème débattu au départ du livre, le mariage, et produisent une première série de digressions contenues dans les questions 5 à 10. Question 5. Pourquoi ne permet-on pas à ceux qui sont faussement réputés être décédés à l'étranger et qui reviennent ensuite de rentrer chez eux en passant par la porte? Mais les oblige-t-on au contraire à pénétrer dans la maison par en haut après les avoir fait monter sur les tuiles du toit? Sixième question. Pourquoi les femmes embrassent-elles leurs proches parents sur la bouche? Septième question. Pourquoi est-il défendu à un mari de recevoir une donation de sa femme et à une femme de recevoir une donation de son mari? Huit. Pourquoi est-il interdit à Rome de recevoir un cadeau de son gendre ou de son beau-père? Enfin, neuf. Pourquoi, quand les Romains reviennent des champs ou de l'étranger et que leur épouse se trouve à la maison, envoie-t-il en avance un messager pour lui annoncer qu'ils sont proches? Les questions, je vois que le thème vous intéresse. Les questions portent donc sur la renaissance, pour ainsi dire, de ceux qu'on a cru morts, sur les rapports entre épouse et mari, épouse et parents, gendre et beau-père. C'est de tout cela que l'on débat, c'est-à-dire des questions touchant à la famille, à ce qui est créé par le mariage, en se tenant à l'angle du Grand Cirque, où nous étions tout à l'heure. Le passage à la dixième question concernant l'usage de sacrifier la tête couverte est plus difficile à comprendre. On peut songer à divers éléments pour expliquer la transition d'un sujet à l'autre. Pourquoi se voilait-il la tête en vénérant les dieux alors qu'il se découvre quand il rencontre des hommes dignes de marque d'honneur et que par hasard ils ont la toge sur la tête? Et ensuite il donne des explications. Donc on peut songer à différents éléments pour expliquer la transition du sujet de la famille, du mariage, vers celui-là. Il est par exemple possible que Plutarque se réfère aux relations du mariage avec le symbolisme du voile et du tissu, car se marier équivalait à se placer sous le même voile, à coucher sous la même couverture, ou même à réaliser une union semblable à un tissu. À partir de là, tout à l'heure, vous voyez, enfin, dans les, cette fois-ci ou les fois prochaines, des questions qui sont en rapport avec cet aspect tissé du mariage. À partir de là, le passage à la coutume de se voiler la tête pendant les rites était ouvert. Mais on peut en même temps supposer que les signes de respect des épouses à l'égard de leur mari, revenant de la campagne ou d'un voyage, dont il est traité dans la 9e question, ou bien plus généralement, que les relations correctes entre parents, bref, ce qu'on appelle la pietas, la piété, servent de passerelle vers la question 10, où il est question justement d'honneur et de révérence à l'égard de supérieurs. À moins que, à l'arrière-plan, le thème du voile et de son usage dans les rites ne se trouve la tradition tout simplement sur le cri nuptial, thalasio, dont nous parlerons prochainement, qu'on rattachait également, vous le verrez, au tissage. Donc d'une manière ou d'une autre, on semble arriver vers le tissu. La 10e question, en tout cas, qui concerne les sacrifices effectués la tête voilée, ne donne pas d'indication topographique implicite. Il s'agit d'une digression à partir des questions précédentes, qui introduit toutefois les dieux et le sacrifice tête voilée. C'est à la 11e question que l'on découvre le lien topographique subtil que la 10e question a préparé. Lisons cette question numéro 11. Pourquoi sacrifie-t-il à Cronos la tête découverte? Est-ce parce que c'est seulement Énée qui a transmis la coutume de se voiler, tandis que le sacrifice à Cronos, Saturne, est en fait beaucoup plus ancien? Donc on fait autrement. Ou bien est-ce parce qu'il se couvre la tête devant les dieux célestes et qu'il regarde Cronos comme une divinité d'en bas et souterraine? Ou bien parce qu'aucune part de la vérité n'est cachée et obscure et que les Romains pensent que Cronos est le père de la vérité? Désormais, le lien topographique est clair. Plutarque a conduit le lecteur au forum à proximité du temple de Cronos, c'est-à-dire de Saturne. Qu'est-ce que le lecteur est censé faire? Pendant la discussion sur les questions 1 à 10, l'auteur ou le lecteur sont censés se trouver à l'angle du grand cirque et d'une rue appelée Vicus Tuscus, qu'on a dans le dos. Dans un premier temps, ils regardent vers le grand cirque, puis le regard se lève vers le temple de Diane sur l'Aventin. Nous l'avons vu. Ensuite, il se retourne de 180 degrés et voit, à travers ces maisons modernes, mais on devait voir la masse du temple, le temple de Saturne. Ou bien il l'aperçoit après avoir fait quelques dizaines de mètres dans ce Vicus Tuscus et il se trouvait devant le temple. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des arbres qui défigurent le paysage, et on ne voit plus le temple, enfin ce qui reste du pauvre temple. Nous reviendrons plus tard à cette question, n'est-ce pas, de circulation. Après deux questions sur Saturne, donc les questions 11 et 12, bon, nous sommes chez Saturne, la 13e évoque les sacrifices offerts, la tête découverte à Honos, au dieu Honos, honneur, alors que la 14e concerne la même pratique dans le contexte funéraire. 13e question, pourquoi sacrifie-t-il également la tête découverte au dieu dit Honor? Il prend cette forme-là qu'il transcrit. On pourrait traduire Honor, ajoute-t-il, par considération ou réputation. Et 14e question, oui ça c'est 11-12, pardon, voilà 13. Et 14, pourquoi les fils portent-ils leurs parents en terre, la tête couverte, alors que les filles le font tête nue et les cheveux dénoués? On pourrait songer ici à un lien thématique, ou bien on pourrait invoquer ce fait contre l'idée d'une promenade dans un espace restreint, car Honos et la déesse Virtus, vaillance guerrière, avaient des temples jumelés très célèbres, très connus, à la porte Capène, au-delà de laquelle commencent les nécropoles de la Via Appia, donc à 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où nous sommes, près des termes, au-delà des termes de Caracalla, vous connaissez sans doute. Cela impliquerait donc un déplacement bien au-delà de la vallée du Grand Cirque ou du Forum, un parcours d'un kilomètre à peu près sur la Via Appia. Ce déplacement annulerait, je le pense, mon hypothèse, car je ne peux pas qualifier chaque passage problématique de digression d'un côté, surtout lorsqu'il évoque implicitement un temple, et de l'autre côté, me trouver devant des pérégrinations qui nous épuiseraient, n'est-ce pas, qui nous feraient courir à travers tout Rome. Mais dans ce cas-ci, un tel subterfuge est inutile. C'est en fait notre ignorance qui est cause de ce problème. Il existait en fait un autre temple de Honos au Forum, du côté du sanctuaire de Vesta ou bien du Capitole, cela dépend de la tradition que l'on suit, mais en tout cas autour du Forum. Autrement dit, le lecteur a sous les yeux le temple en question, à l'endroit où il se trouve. C'est donc seulement l'évocation des rites funéraires à la question 14, n'est-ce pas, qui constitue une annexe thématique. On parle de Honos où on fait telle chose et puis on ajoute une coutume funéraire, mais sans qu'on soit en rapport avec un lieu précis. La progression continue. La 15e question s'arrête à une fête qu'on appelle les Terminalia, la fête du dieu Terminus. Pourquoi ne sacrifie-t-il aucun animal à Terminus, le bénéficiaire des Terminalia? Terminus veut dire la borne, n'est-ce pas? Alors qu'il le considère comme un dieu. Ou bien est-ce que les Romulus, le roi Romulus, n'a pas placé de borne autour de son territoire afin qu'il fût possible d'aller au-delà, de saisir et de considérer, d'après la locution spartiate, comme sa propriété toute la terre que la lance pourrait atteindre? Numa Pompilius, le successeur de Romulus, au contraire, en homme juste et pénétré de l'esprit de cité, qui était également devenu philosophe, délimita le territoire de Rome par rapport aux voisins et a pensé, en faisant de Terminus le protecteur des bornes, le surveillant et le gardien des bonnes relations de la paix, qu'il fallait se laisser ce dieu pur et ne pas le souiller par le meurtre et par le sang. En philosophe, n'est-ce pas, en homme juste, pas de meurtre pour celui qui protège les bonnes relations et les frontières. Pour lier cette question à la topographie, il n'est pas besoin de se rendre aux frontières du territoire de Rome, où se trouvaient, semble-t-il, ses bornes. C'est au Capitole que se trouvait un hôtel célèbre de Terminus, inclus dans le temple de Jupiter, puisque conformément à son domaine d'action, le dieu borne avait, d'après la légende, refusé de se déplacer quand le temple du Très Grand fut construit, à l'origine de l'histoire de ce temple. Or, le lecteur se trouve, depuis la question 11, à l'angle du Forum romain et du Capitole, vers lequel il lève en quelque sorte les yeux en lisant ou en écoutant la question 15, n'est-ce pas? Et il voit le temple sous lequel, on le sait, il y a cette chapelle de Terminus. Les questions suivantes concernent une déesse, l'Oikotea, le côté, Mater Matuta. 16e question. Pourquoi le sanctuaire de le côté, c'est-à-dire Mater Matuta, est-il interdit aux esclaves, à l'exception d'une seule que les femmes y introduisent, en la giflant et en lui donnant des coups de baguette dans la figure? Est-ce que les coups de baguette sont le signe de l'interdiction? Et est-ce qu'ils empêchent les autres d'y pénétrer en raison de ce mythe-ci? On raconte en effet que Ino, qui était jalouse d'une esclave à cause de son mari, tourna sa fureur contre son fils. Les Grecs prétendent que l'esclave était étolienne de naissance et s'appelait Antiphera. C'est pour cette raison que chez nous, à Chéronée, en Béotie, le gardien se tient devant le temple de Leucothé, muni d'un fouet, et proclame que n'entre aucun esclave, ni homme, ni femme, ni étolien, ni étolienne. Puis 17e question, pourquoi les femmes ne prient-elles pas cette déesse, le Cotéa, pour le bien de leurs enfants, mais pour celui de leurs sœurs? Est-ce parce que Ino aimait sa sœur et allaita l'enfant de sa sœur, alors qu'elle fut malheureuse en ce qui concerne ses propres enfants? Ou est-ce pour une raison tout autre, parce que la coutume est conforme à la morale et belle, et introduit une grande bienveillance dans les relations entre parents? Voilà donc ces deux questions sur le côté. Je n'entre pas dans le détail, n'est-ce pas? Je vous signale simplement ce petit passage. Vous voyez de nouveau comment Plutarque explique le romain par le grec. Il donne comme parallèle d'une coutume qui se déroule le 11 juin au Forum Boarium dans le temple de Mater Matuta, une coutume de Béotie, de Chaironeia, hein, de Chéronée. À l'endroit où il s'était arrêté, l'auteur et le lecteur n'avaient qu'à se retourner vers la gauche, donc il se trouvait au bord du forum, il se tourne vers la gauche et il voyait au bout du Vicus Jugarius, de la ruelle du Jouc, comme on dit, il voyait le temple de Mater Matuta. On peut donc admettre qu'ils évoquent ces questions, 16 et 17, en descendant cette rue. Je précise que le Vicus Tuscus, la rue des Toscans, la rue des Étrusques, en somme, et le Vicus Jugarius, la rue du Joug, sont antiques. Ce sont deux, sur mon plan, ce sont des routes antiques, des voies antiques, pas modernes. Les immeubles romains étaient de la même taille et sans doute même beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. De sorte que les coups d'œil des promeneurs apercevaient avec moins de problèmes encore qu'aujourd'hui les grands monuments dont nous parlons. C'est ainsi, par exemple, et sans doute beaucoup mieux qu'aujourd'hui, qu'ils pouvaient apercevoir le Capitole à partir du Vicus Tuscus. Et la vue que j'ai prise vous montre d'une part le dos du monument de Victor Emmanuel, l'autel de la patrie, dit aussi machine à écrire, et le campanile du Capitole, n'est-ce pas? Et autrefois, on devait voir à peu près aussi important le temple de Jupiter à cet endroit. Donc, de ce point de vue, nous nous promenons dans des rues antiques et en imaginant que les immeubles étaient même plus bas en partie qu'aujourd'hui. Nous trouvons la confirmation de cette reconstruction dans le fait que la 18e question concerne Hercule. Lisons d'abord la question. Pourquoi beaucoup de riches offrent-ils la dîme de leurs biens à Hercule? Est-ce parce qu'Héraclès, lui aussi, a sacrifié à Rome la 10e partie des bœufs de Gérion? Ou bien parce qu'il a affranchi les Romains de la dîme qu'ils versaient aux Étrusques? Ou bien ces récits ne contenant aucune information digne de foi, est-ce au contraire parce que les Romains considéraient Héraclès comme un grand mangeur et un glouton qui lui offrait de copieux et abondants sacrifices? Ou plutôt, diminuait-il la richesse excessive, insupportable pour les citoyens, tout comme on fait maigrir une constitution physique trop luxuriante, parce qu'ils estimaient qu'Héraclès, qui au cours de sa vie avait été frugal, content de peu et simple, oui, c'est tout à fait le contraire de ce qu'il vient de dire, serait très honoré et flatté par de pareilles privations et par l'économie du superflu. Chaque Romain comprenait que cette question se référait au grand hôtel d'Hercule et au Forum Boarium. Or, si nous sommes descendus du Forum vers le Forum Boarium, d'un côté ou de l'autre de ces temples qui se trouvent au bord du Forum Boarium, il suffisait de se placer à l'angle du temple et avec le dos contre un autre forum, le Forum Holitorium, le Forum aux légumes, pour avoir sous les yeux le Forum Boarium, le Forum des bœufs, avec les lieux de culte d'Hercule qui se trouvent à peu près à l'endroit du clocher que vous voyez sur l'image. Soulignons qu'en nommant Ino et sa sœur, l'explication donnée crée déjà un lien avec la question suivante, puisque la sœur de Ino, Sémélée, la mère de Dionysos, était assimilée dans la mythologie latine à Stimula, une déesse dont le sanctuaire surplombait le Forum Boarium. Il est quelque part sous ces arbres que vous voyez à l'angle de l'Aventin. La suite des questions confirmera cette hypothèse, car comme nous le verrons, le lecteur ne quitte pas cette zone pendant un certain temps. Et en même temps, l'hypothèse de départ sera prouvée. La 19e question donne, a priori, l'impression que le lecteur doit revenir sur ses pas. Je lis la 19e question. Pourquoi prend-on le mois de janvier comme début de la nouvelle année? Autrefois, en effet, mars était compté le premier. Différents témoignages le mettent en évidence, et notamment le fait que le cinquième mois, en comptant à partir de mars, est appelé cinquième, quintilis, c'est le vieux nom du mois de juillet. Le sixième est appelé sixième, sextilis, c'est le mois d'août que nous connaissons. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, qu'on nomme décembre, en le comptant dixième à partir de mars. À partir de là, certains ont conçu l'idée et l'ont répandu que les Romains avaient une année non pas de 12 mois, mais de 10 mois, dont certains recevaient plus de 30 jours. Mais d'autres assurent que décembre était le 10e mois à partir de mars, janvier le 11e et février le 12e, puisqu'au cours de ce mois, ils célèbrent des rites de purification et des sacrifices aux défunts, comme le veut l'année qui finit. Mais, disent-ils, les mois ont changé et janvier est devenu le premier, parce qu'après l'expulsion des rois, c'est le jour de la nouvelle lune de ce mois, qu'on appelle les calendes de janvier, un 1er janvier, que les premiers consuls furent installés. Plus dignes de confiance sont ceux qui disent que belliqueux, passionné de guerre et passant pour le fils d'Arès, Romulus plaça les autres mois, avant les autres mois, celui de mars, qui tirait son nom du dieu Arès. Numa, toujours ce couple des deux rois fondateurs, Numa au contraire était pacifique et s'efforçait de tourner la cité vers les travaux de la terre et de l'éloigner des entreprises guerrières. Il donna la préséance à janvier et promut Janus à de grands honneurs parce que c'est un dieu de la cité et des travaux de la terre plutôt qu'un patron de la guerre. Mais on se demandera également si Numa n'a pas pris pour début de l'année celui qui est, de notre point de vue, conforme à la nature. En général, il n'y a par nature ni premier, ni dernier, ni premier dans un cycle. Mais c'est par convention que l'on prend tel ou tel début pour la période. Le meilleur choix consiste à faire commencer l'année en même temps que le solstice d'hiver, quand le soleil cesse de s'éloigner, fait demi-tour et revient à nouveau vers nous. En effet, ce point de départ est naturel, puisqu'il augmente pour nous la durée de la lumière, diminue celle de l'obscurité et rapproche le maître et le chef du flux de toute chose, le soleil. Je vous lis parfois des questions ainsi pour vous montrer en quoi consiste cet ouvrage et en quelle, de la manière très moderne parfois, Plutarque raisonne comme des scientifiques. Notamment, on croirait lire là des traités actuels sur le calendrier romain. Et d'autre part, vous pouvez aussi voir que Plutarque parfois raisonne, notamment quand il s'agit de la société d'hommes et de femmes et qui joue avec les oppositions, comme un structuraliste. Je ne suis pas le premier qui l'ait remarqué, mais c'est diaboliquement moderne dans certains cas. C'est pour ça que c'est un auteur qui n'est pas inintéressant. Le mois de janvier, donc, auquel est consacrée cette question, et le dieu Janus, qui est nommément cité pour expliquer ce fait, peuvent laisser supposer que Plutarque renvoie à un temple de Janus, à un monument de Janus. Question alors, faut-il retourner au forum, au célèbre arc de Janus? Quand on dit à quelqu'un où se trouve le monument de Janus, il dira au forum. Il conviendrait alors d'imaginer que pendant les questions suivantes, le lecteur est resté à l'angle du forum et a simplement contemplé de loin le temple de Mater Matuta. Mais la question précédente, la 18e, concernait Hercule. Et il faudrait alors imaginer qu'il a rebroussé chemin dans le Vicus Tuscus jusqu'à ce qu'il voit le Forum Boarium. Et puis il revienne de nouveau vers le Forum pour voir Janus, à la question 14, n'est-ce pas? Ou 19, je ne me rappelle plus. Mais la question est plus compliqué. Je repugne, je vous l'ai dit, à de tels subterfuges. Un tel parcours serait absurde, n'est-ce pas? Le procédé doit être évident et simple, sinon il vaut mieux oublier l'hypothèse. Si le lecteur doit se déplacer en avant et en arrière à chaque question, Ou alors s'il faut intercaler des digressions inventées pour gommer un problème, je crois que la théorie sera difficile à maintenir. Mais une fois de plus, c'est inutile, car Janus n'est pas seulement un des dieux civilisateurs des Romains, tel Hercule, ce qui rendrait un lien thématique possible avec la question précédente, mais il est le propriétaire d'un temple au Forum Holitorium. L'auteur qui se tient à l'angle du temple de Mater Matuta, ou bien un peu plus loin, 10 mètres plus loin, à l'orée du Forum Boarium, s'est simplement tourné vers la droite, ou retourné, pour regarder vers les 3 temples qui sont encore conservés sous l'église que vous avez là, parmi lesquels figure un temple de Janus. Donc il se trouvait à 50 mètres de ce temple. Ensuite, le lecteur ou l'auteur se tourne à nouveau vers l'Ara Maxima, vers le grand autel, qui se trouve là où est le 26 sur votre plan, pour évoquer une autre divinité voisine de l'espace herculéen, car elle est liée à lui par le mythe. Il se peut d'ailleurs que, n'est-ce pas, en parlant d'Hercule, ça déclenche un lien civilisation, et ça appelle Janus. Et la topographie confirme qu'il y a cette connexion. Et ensuite, on revient de nouveau au point de départ, au Forum Boarium, pour continuer à propos d'Hercule. Et la 20e question concerne Bonadea, la bonne déesse, dont on pouvait d'ailleurs même deviner le temple sur le petit Aventin de l'autre côté du Grand Cirque. Voici la question, 20e question. Pourquoi les femmes n'apportent-elles pas de myrte quand elles ornent le sanctuaire domestique de la déesse des femmes, qu'on appelle la bonne, bien qu'elles s'efforcent d'utiliser toutes les plantes et fleurs? Est-ce parce que, comme les mythographes l'assurent, cette déesse était l'épouse du devin Faunus et qu'elle fut châtiée par son mari avec des branches de myrte pour avoir bu du vin en cachette, sans avoir pu le dissimuler? Est-ce pour cette raison qu'elle n'apporte pas de myrte, mais font une libation de vin qu'elle qualifie de lait? Vous voyez comment ils transforment les mythes en rites, n'est-ce pas? Ou l'inverse. Ou bien est-ce parce qu'elles exécutent ce rite en état de pureté générale, et surtout sur le plan des plaisirs sexuels? Car quand elles célèbrent les rites en l'honneur de la déesse, elles n'expulsent pas seulement les hommes de la maison, mais en excluent même tout être masculin ou mâle. Ainsi exclut-elle rituellement le myrte en tant que plante consacrée à Aphrodite, car celle qu'on appelle maintenant Aphrodite Murkia portait, semble-t-il, jadis le nom de Myrtia, Aphrodite du myrte. Même si le temple de Bonadea ne se trouve pas à proximité immédiate de l'ère d'Hercule sur le Forum Boarium, le lien est clair, puisque le mythe relie toujours l'autel d'Hercule à Bonadea. C'est une histoire propre de l'autel. Hercule, en arrivant à cet endroit, il voulait sacrifier, mais il avait très soif, et il va à un temple voisin pour boire, pour se désaltérer. Et une dame, une prêtresse qui est là, lui dit non, c'est le temple de la bonne déesse, c'est le jour de la fête des femmes, et aucun homme n'est admis, elle lui refuse l'eau. Alors Hercule dit, ben, si c'est comme cela, à mon grand autel, j'interdis l'accès à toute femme, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé il y a 2 ans, vous vous rappelez. Et donc, il y a toujours ce lien Hercule-Bonadea, n'est-ce pas, qui est présent à tous les esprits. De surcroît, Plutarque introduit en fait dans la question Vénus, Vénus Murkia, dans le temple Aventin, on ne sait pas très bien où il se trouve, mais il se trouvait sur l'Aventin, il a donné son nom à la vallée du Cirque, la Vallis Murkia. J'en conclurai que le lecteur a regardé au-delà du Forum Boarium vers la pente orientale de l'Aventin où se dressaient les temples en question. En outre, si vous avez bien lu, la question ne porte pas précisément sur le temple de Bonadea, mais sur la chapelle domestique de Bonadea, qui était construite et ornée dans chaque maison par les femmes au début de l'année. Le temps de mentionner dans la 21e question Picus, Piver, en se servant de l'arrière-plan thématique des plantes médicinales de Bonadea et du fait que cette déesse était, d'après la légende, l'épouse ou la fille de Faunus, du dieu Faunus, qui était lui-même très lié à Picus, et que l'Aventin était le lieu où tous les deux étaient censés vivre, d'après le mythe, n'est-ce pas? Et Plutarque revient à Janus dans la 22e question. C'est-à-dire, ils se retournent à nouveau. Hein, ils sont là, ils regardent dans un sens, ils regardent dans l'autre. Avant de faire, donc ils se retournent à nouveau, avant de faire une digression sur Vénus Libitina dans la 23e question. Cette digression est peut-être déjà annoncée par l'allusion à Vénus Murtia, n'est-ce pas, dans la 20e question que nous venons de voir. En tout cas, la 24e question revient en quelque sorte au point de départ, celui de la 19e, à Janus, et au calendrier auquel sont vouées les questions 24 et 25. Comme Herbert Rose le supposait, il est également possible que derrière toutes ces questions se trouve une même source, peut-être l'antiquaire Juba, le roi Juba de Maurétanie, qui est un grand érudit, qui est mentionné dans la question 24. Est-ce que ceux qui suivent Juba le prétendent, etc. C'est possible. Cette source examinait peut-être soit le début des cycles temporels, soit le calendrier en général. Et Plutarque a pu suivre tout le développement de cette source. Le contexte topographique peut néanmoins justifier également tous ces thèmes si nous supposons que le lecteur regarde tantôt vers le Forum Boarium et les pentes de l'Aventin où il devinait Bonadea, Vénus Murcia, tantôt en se retournant vers le temple de Janus. La question 25 confirme l'impression que nous nous trouvons placés entre le temple de Mater Matuta et celui de Janus, ou que nous nous promenons dans ce petit endroit, en regardant à droite et à gauche. 25e question. Pourquoi considère-t-on le lendemain des calendes, des nones et des ides, ce sont les subdivisions du mois romain, comme impropre au départ et au voyage? Est-ce, comme la plupart des auteurs l'estiment, et comme Tite-Live l'atteste, parce que ce fut après les ides de Quintilis, que l'on appelle maintenant juillet, et que les tribuns militaires firent sortir l'armée de Rome, furent défaits par les Celtes auprès du fleuve Allia et perdirent la ville. Une fois le lendemain des ides maudits, est-ce que la superstition, à son habitude, a étendu la coutume et l'a appliquée et a appliqué la même précaution au lendemain des nones et au lendemain des calendes? Ou bien est-ce que cette explication contient de nombreuses invraisemblances? En effet, les Romains furent défaits un autre jour qu'on appelle Allia, c'est-à-dire le Dies Aliensis, le jour de l'Allia, à cause de cette rivière. On le célèbre par une expiation. Alors qu'il y a beaucoup de jours néfastes, on n'observe pourtant pas comme tel les jours qui portent le même nom chaque mois, mais chacun dans le mois où il s'est produit, et non dans les autres mois. Il est donc hautement invraisemblable que l'on ait attribué ce caractère à tous les lendemains des nones et des calendes, et ainsi de suite. Plutarque commence donc par s'attarder aux jours de mauvais augure, et entre tous à celui de la défaite sur l'Allia, en 390 avant Jésus-Christ. Ce même jour, le 18 juillet, avait déjà été signalé par un autre désastre, celui des 306 Fabius sur une autre rivière, sur la Crémera. Plutarque en était conscient, puisque même s'il ne dit rien dans notre question, n'est-ce pas, puisque la digression qu'il a consacrée aux jours néfastes dans la vie de Camille XIX, et donc dans le contexte de la défaite sur les rives de l'Allia, mentionne, donc dans cette, puisque cette digression mentionne bien la défaite des Fabius. C'est le passage que j'ai cité dans le cours précédent, dans lequel Plutarque se réfère aux questions romaines comme à un ouvrage achevé, où on parle davantage, où on débat de cette question, n'est-ce pas, de ce problème. Les Fabius étaient partis de Rome en passant par la Porta Carmentalis, qui, d'après Festus, fut par la suite appelée Porta Scelerata, ou au moins l'un de ses battants, l'une de ses arches. Et on évitait de franchir cette Porta Scelerata pour quitter la ville, puisque c'était de mauvais augure. parce que l'armée qui était partie par là s'était fait battre terriblement. Or, cette porte, qui a malheureusement disparu de nos jours, se trouve précisément à l'endroit où vous vous tenez, où se tient le lecteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez Mater Matuta, Janus à droite, vous voyez le théâtre de Marcellus qui n'est jamais cité, et le point blanc est l'endroit où se trouvait la Porta Carmentalis. Voilà un plan, je crois que vous voyez très bien. Et voici une autre image empruntée à un dessinateur de bande dessinée, Gilles Chaillet, qui vous montre très bien tous ces monuments, n'est-ce pas? Mater Matuta, Fortuna, le point rouge qui, c'est vous, n'est-ce pas? Avec les questions romaines en main, et puis il a figuré la Porta Carmentalis, et puis derrière les trois temples, dont le dernier est celui de Janus. Et pour compléter la référence implicite, la 26e question est consacrée à l'usage que les femmes s'habillent de blanc pendant le deuil, durant le deuil. De toute évidence, le deuil des matrones est évoqué par la référence au désastre de l'Alia. Cette séquence de questions prouve donc que ma reconstruction n'est pas erronée ou fantaisiste. C'est bien à cet endroit que le lecteur doit se trouver, ou plutôt, s'il se tient ou se promène à cet endroit, ce sont là les bâtiments qu'il a sous les yeux, qu'il entoure. Nous ne connaissons pas tous les bâtiments de cet endroit, ni parfois leur emplacement précis, mais du moins les édifices mentionnés dans nos sources peuvent-ils être placés sur une carte sans trop de risque d'erreur? D'ailleurs, nous ne faisons pas ici de topographie historique, n'est-ce pas? C'est des problèmes compliqués, mais je situe les monuments en cause à l'endroit, grossièrement, où ils sont censés se trouver à l'époque où Plutarque écrit, même si, bon, ils ont aujourd'hui disparu et nous avons simplement une hypothèse pour dire ils sont là. Si on fouillait, on le trouverait. D'ailleurs, pour faire une vérification, lisons la 27e question. D'après ma lecture, nous nous trouvons donc à l'angle des temples de la Fortune et de Mater Matuta, au débouché de du Vicus Jugarius, dans la rue qui va droit vers le temple d'Hercule, et avec derrière nous la Porta Carmentalis et une vue vers le temple de Janus. Il est question implicitement de la Porta Carmentalis qui sépare la position du lecteur du temple de Janus. D'accord. Or, de quoi traite la 27e question? Je vous le donne en mille. 27e question. Pourquoi, à la différence des portes, tout rempart est-il tenu pour inviolable et sacré? Comment en vient-il à ce sujet, n'est-ce pas, s'il n'y a pas cette connexion topographique? Est-ce qu'il faut considérer le rempart comme sacré, comme l'a dit Varron, afin de combattre avec ardeur et de mourir pour le défendre? C'est pour cette raison que Romulus passe pour avoir tué son frère, parce que celui-ci avait entrepris de franchir d'un bond un lieu infranchissable et sacré, et de le rendre ainsi franchissable et violable. Les portes, quant à elles, ne pouvaient pas être consacrées, puisque c'est à travers elles que, parmi beaucoup d'autres choses nécessaires, on emporte les morts. C'est pourquoi les premiers fondateurs attellent sous le joug un bœuf et une vache et parcourent avec la charrue autant de terrain qu'ils veulent fortifier. Et lorsqu'ils tracent les remparts, ils enlèvent le soc à chaque fois qu'ils mesurent l'emplacement d'une porte et ils portent la charrue sur cette distance, parce qu'ils pensent que toute la terre labourée est sacrée et inviolable. Vous voyez, on laisse non labouré l'espace destiné aux portes. Pour être complet, il faut dire que d'une part, évoquant la défaite de l'Alia et la Porta Carmentalis, Plutarque insère une question sur les portes, sur les murs et la limite juridique du pomerium, de cette limite juridique tracée à la charrue, mais que d'autre part, il se réfère aussi à un monument et espace voisin, la statue du taureau de bronze qui, d'après certaines traditions, commémorait à 50 mètres au Forum Boarium le départ du sillon fondateur de Romulus. Et le sillon, théoriquement, ne passez pas loin de l'endroit où on est. C'est même peut-être à un moment donné ce mur que vous avez vu sur le plan qui matérialise cette limite. Je pense que la preuve est claire. Le texte de Plutarque est manifestement appuyé sur la topographie. Nous verrons que ceci concerne l'ensemble du texte. On retrouvera comme ça des passages complètement saugrenus, n'est-ce pas, dans leur cohésion, mais qui trouvent une cohésion totale quand on se place dans le quartier, n'est-ce pas. Après en avoir provisoirement fini avec le secteur de la Porta Carmentalis, Plutarque conduit le lecteur vers ailleurs. D'ailleurs, le thème du Sillon Romuléen, je viens de le dire, ménage une transition vers le forum Boarium, le forum du bœuf de labour, d'après une tradition, du premier Sillon. C'est là que commençait le fameux Sillon tracé par Romulus. Ou plutôt, si nous restons à l'angle de ce forum, nous nous retournons pour regarder vers le sud. Nous regardons en tout cas vers le sud, vers le forum Boarium. La 28e question porte, en effet, on l'attend en quelque sorte, sur les serments par Hercule. Les trois questions suivantes, 29 à 31, sont consacrées aux coutumes du mariage. Même si l'on peut relier ces questions à un thème plus large, celui des limites, du passage des limites, n'est-ce pas, le seuil de la maison, etc., il est clair que le moyen le plus satisfaisant de rattacher ces questions aux précédentes est la proximité topographique. Dans la 30e question, certes, le temple de Sancus, du dieu Sancus, est mentionné à propos de Gaia Sicilia, qui était l'épouse d'un des fils de Tarquin et dont une statue en bronze se dresse dans le temple de Sancus. Les manuscrits donnent Sanctus, c'est une erreur. On pourrait songer qu'à l'endroit, au moment où vous regardez vers le sud, vers le forum Boarium, vous regardez de 90 degrés vers la droite et vous voyez l'île du Tibre où Sancus avait un temple, n'est-ce pas? C'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cet indice topographique, même s'il est voisin. Vous verrez que l'allusion implicite un monument n'est pas forcément celui qui est en cause, n'est-ce pas? C'est un peu plus traître que cela. La question fait plus généralement partie d'un paquet thématique qui traite du mariage. Mais comment rattacher ces questions à celles qui concernent Hercule, qui était la précédente? Eh bien, c'est simple. D'après l'hypothèse initiale, les questions sur le mariage doivent renvoyer au grand cirque et au rapt des Sabines. Or, le lecteur est effectivement revenu, au moins par le regard, au forum Boarium, et en faisant 30 mètres, n'est-ce pas, et il peut voir sans problème le cirque. Et d'ailleurs, à la 31e question, les Sabines sont citées explicitement.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shade. Réalisation Thomas Luther. Présentation Christine Goemi.
raison d'un arrêt de travail lié à un mot d'ordre national de grève, nous ne sommes pas en mesure de diffuser notre programme habituel.
Hasta la, que mande hasta la.